C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Comment la fiction peut-elle servir de levier pour transformer nos imaginaires collectifs, en particulier sur les enjeux de genre et de diversité? Blanche Sabat est une autrice, BDiste, activiste, connue sous le pseudonyme La Nuit Remue Paris, @ La Nuit Remue Paris sur Instagram. Elle vient de publier chez Dargo la bande dessinée Cité des Dames. Bienvenue à l'émission, Blanche. Merci d'être là.
Merci, merci de me recevoir.
Alors, cette nouvelle saga, La Cité des Dames, tire son nom d'un ouvrage de Christine de Pizan, écrit au 15e siècle, si je ne me trompe pas.
En 1405.
Alors, pourquoi utiliser les codes de l'heroic fantasy ou la fantasy héroïque pour héroïque pour porter un message féministe et inclusif aujourd'hui, en 2026?
Pour deux raisons. Déjà parce que j'adore le genre littéraire de la fantasy, du médiéval fantastique. J'en suis une grande lectrice et admiratrice, et j'ai grandi avec des contes et légendes réels ou fictionnels qui appartiennent à cette catégorie-là, et je pense que ça bénéficierait vraiment de perspectives féministes et antiracistes, parce que c'est pas forcément ce qu'on croise le plus souvent dans ce genre-là. Et la deuxième raison, c'est parce que de par mon combat féministe et les recherches que j'ai faites pour cet ouvrage et puis aussi pour mes autres BD, je me suis rendu compte qu'il y avait une parole féministe qui était vraiment très ancienne parfois, qui pouvait dater parfois du coup du vrai Moyen Âge, comme c'est le cas de Christine de Pizan. Et donc j'avais envie de mélanger cet univers médiéval et des propos de lutte sociale, parce qu'on peut croire que c'est des sujets qui vont pas très bien ensemble, alors qu'en fait ça va très bien ensemble et que ça peut être le lieu de plein de discussions politiques très intéressantes ancrées dans ce contexte-là. Donc c'est un peu pour rendre hommage aux féministes du passé et puis aussi faire découvrir peut-être ce texte de Christine de Pizan qui est absolument fabuleux.
Je vais sauter tout de suite à ce moment-là à la bataille culturelle qui est votre essai, qui est aussi un ouvrage qui comporte un peu de bande dessinée. Et vous parlez que l'art et les récits n'appartiennent pas à l'extrême droite, mais ça appartient aussi aux gens progressistes et ça peut aider à construire une société plus juste. Comment donc cette représentation de la diversité? Puis j'aimerais parler de la diversité sexuelle, puisque c'est le thème de l'émission, mais aussi le féminisme. Comment on peut que cette représentation-là dans la culture populaire, ça pourrait être une arme pour combattre les montées ou la montée des extrêmes droites?
Ben parce que déjà, quand on a une identité qui a été marginalisée par le passé ou au présent, donc ça peut être femme ou minorité de genre, les identités queer, les identités racisées, on est en manque d'imaginaire et de représentation. Et donc c'est infiniment plus difficile de se construire quand on a peu de modèles, quand on a surtout appris à comprendre que la norme c'était pas nous, qu'on se construit dans les marges. Et d'ailleurs il y a un truc médiéval qui est les marginalia, c'est des petits dessins complètement fantaisistes qui naissent dans les marges des manuscrits. Et je trouve ça métaphorique et hyper intéressant en fait de se dire qu'il y a le script extrêmement fignolé, codifié de l'intérieur du livre, et puis dans les marges on a de l'espace pour la créativité et pour de la dissidence en fait. Et pour moi, nos imaginaires, ils doivent servir à ça. Ils doivent servir à montrer des alternatives, à façonner. En fait, ça façonne à plein d'endroits le monde dans lequel on vit, comment on se construit, comment on se conçoit dans la société. Et donc en faisant des imaginaires qui sont déjà plus représentatifs de la réalité, mais aussi voilà, plus divers, plus colorés, plus variés, plus créatifs tout simplement, et ben on aide à façonner une société qui est moins restrictive, qui est moins violente, qui est moins isolante, qui est moins précarisante, et la fiction a une place de choix. Et d'ailleurs, dans le Moyen-Âge, c'est intéressant parce que c'est un imaginaire, pas le vrai Moyen-Âge, le Moyen-Âge fantasmé et les petites réécritures historiques qui est complètement phagocyté par l'extrême droite. Quand on pense en France au Puy du Fou, etc., en fait, ils ont fait un peu un hold-up sur cette période historique pour lui accoler des valeurs ultra-conservatrices et assez intolérantes. Et donc, du coup, je trouve que me réapproprier cet imaginaire et infuser de la pensée progressiste, c'est aussi un peu un pied de nez au modèle de société qu'ils nous proposent.
Oui, je vois que et vous avez beaucoup d'humour, puis je trouve ça vraiment, ça se traduit dans Cité des Dames. Le personnage de Kim Devinit, il faut parler d'elle. Elle refuse le destin tracé par le mariage, le patriarcat. Alors, je donne pas trop de détails, il faut que les gens lisent, mais comment la fantaisie permet-elle de mieux mettre en scène cette quête d'autonomie des femmes et des personnes queer? Parce qu'il y a des personnes queer dans ce livre-là, dans ce récit strictement contemporain. Comment est-ce qu'on peut faire mieux que dans un récit contemporain?
On va dire que les contraintes ne sont pas les mêmes dans la fantaisie. Déjà, si je m'inspire d'un Moyen-Âge qui ressemble au XIIIe, XIVe siècle en France, on peut imaginer, c'était une société qui n'était quand même pas très tolérante de la diversité, de la dissidence. Donc on peut imaginer qu'il y a des très grosses contraintes qui pèsent sur mes personnages qui veulent s'émanciper. Et c'est plus facile de parler d'émancipation quand on part d'un contexte qui est extrêmement restrictif. C'est notamment pour ça que la dystopie est un genre tellement politique. Donc je prends un contexte où c'est pas facile, donc il faut lutter pour s'émanciper parce que déjà on est très restreint. Mais la fantaisie, ça a ça de chouette aussi que c'est de la fantaisie, c'est-à-dire que je peux mettre de la magie, je peux tordre les règles parce que c'est de la fiction. Je suis pas en train de faire un ouvrage historique. Et donc souvent dans la fantaisie et dans mon travail aussi, il y a un lien entre la queerness et la magie, par exemple. Ça ne veut pas dire que l'un vient de l'autre, mais mes personnages magiques, ce sont un peu des personnages de marginaux. Ils sont d'ailleurs traités comme tels dans la société, et ça me permet de porter un discours sur notre société contemporaine, mais en le transposant dans un espace qui est ludique, dans lequel c'est agréable de se plonger, dans lequel c'est joli à regarder, et du coup... Peut-être que parfois, on peut avoir un côté un peu donneur de leçons quand on milite, quand on dit bon, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà ce qu'il faudrait penser. Et je trouve que la fiction et la fantaisie en particulier, parce qu'on peut vraiment partir loin avec des pouvoirs, des créatures fantastiques, des ethnies, des cultures entières qu'on invente, et ben ça permet de porter à peu près le même discours, mais juste de le décaler dans un univers où tous les parallèles sont pas forcément évidents. Et du coup, ça laisse de la place à la subjectivité, je trouve, du lecteur.
Il y a quand même, je vais quand même le mentionner parce que je ne veux pas tout ce qu'on dit chez nous divulgâcher, là, mais il y a quand même des choses que j'ai trouvées géniales dans cette BD. Par exemple, le fait que vous avez des hommes qui sont à l'écoute et qui sont accueillants vis-à-vis les revendications des femmes. Oui, ça, c'est vraiment à l'encontre de ce qu'on nous a dit qui était le Moyen-Âge, hein?
Oui, tout à fait. J'ai envie de casser un peu les codes du Moyen-Âge tel qu'on l'imagine, donc quelque chose de très gris, très décoloré, très boueux, très violent, très fanatique. Moi, j'avais envie d'un Moyen-Âge où les discussions puissent advenir. Et d'ailleurs, on me l'a fait remarquer, c'est marrant, c'est mon papa qui me l'a fait remarquer, mais mes personnages masculins, ils sont tous un peu fluides, c'est-à-dire qu'ils sont... En tout cas, mes personnages masculins positifs, ils ont une forme d'androgynie, en fait, même dans le design. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de délibéré, mais de fait, ça dit quelque chose de où ils se situent sur l'échiquier politique et effectivement, de l'écoute et de la compréhension qu'on aimerait tous avoir.
Vous direz à votre papa qui vient de me voler ma prochaine question.
Voilà.
J'allais vous poser la question sur ces personnages. Mais j'aimerais quand même faire un parallèle avec cet essai que j'ai trouvé fort intéressant, qui a été publié l'an dernier, La bataille culturelle. Vous soulignez donc là-dedans aussi que les personnes queer sont souvent la cible de violences symboliques en ligne avec le simple fait d'oser exister. Alors comment ça, par rapport à vos bandes dessinées, comment ça vous aide à créer ce que vous appelez un contre-discours contre ces ou face à ces hostilités?
Eh bien, ça va être déjà, par exemple, dans mes BD précédentes, d'aller chercher de la queerness là où on l'attend pas forcément, dans notre culture soit classique, soit populaire. Donc, par exemple, dans ma BD Mythes et Meufs, évidemment, je réinterprète des contes et légendes et des personnages fictionnels. Et donc, quand je parle de la petite sirène, par exemple, quand je parle... quand je parle du personnage de Ellie dans le jeu vidéo The Last of Us, en fait, c'est mettre en avant des personnages de fiction qui sont queer et qui ont été créés par des personnes queer et parler de la place que ça a dans notre culture, dans notre manière de raconter des histoires, de façonner des histoires. Et puis ensuite, j'étais plutôt du côté analyse, analyste. Et puis ensuite, maintenant que je prends la plume côté plutôt conteuse, ça va être dans La Cité des Dames, faire un peu changer le regard des gens sur les représentations, en n'ayant pas une représentation archétypale de personnages LGBT+, en les multipliant. Il y en a où ça se voit déjà dans le tome 1 et il y en a, ça va venir, il faudra attendre les autres tomes pour voir un petit peu leur histoire romantique, mais c'est pas encore évident, mais j'ai placer des petits indices ici ou là. Et donc, en fait, en créant des personnages qui sont des héros, héroïnes, et dont aussi l'identité de genre ou romantique n'est pas l'entièreté de l'histoire. C'est-à-dire que ça peut être déterminant dans leur storyline, mais c'est pas uniquement à ça que on reconnaît le personnage et qu'on reconnaît la richesse du personnage aussi, en fait. Je voulais éviter de tomber dans cet écueil où, justement, comme j'ai choisi un univers très très restrictif où il faut lutter pour ses droits, que donc du coup ça se soit un peu torturer des personnages queer et faire en sorte que leur identité soit un absolu martyr. C'est pas du tout l'idée non plus, quoi.
J'aimerais vous amener à parler aussi dans cet essai, La bataille culturelle. Moi, ce qui m'a vraiment parlé, je reviens là-dessus parce que je pense qu'il faut vraiment en parler de ça, c'est comme si avoir du plaisir, ça, c'est la droite, c'est l'extrême droite, c'est approprier le fun et que nous,
Complètement.
on n'a pas le droit d'avoir de plaisir, puis on ne peut pas fêter du côté des gens de la démocratie. Ah oui, je vais quand même noter ce que vous avez écrit. Hein. Il y a la démocratie, il y a l'extrême droite. Ça, c'est vous qui avez écrit ça, si je ne me trompe pas. Mais on parle de rire, de se réapproprier le plaisir du côté des gens progressistes. C'est important ce message-là et pourquoi?
Eh bien, c'est important parce que l'extrême droite, dans leur discours politique, ils fonctionnent que à la mauvaise nouvelle. Dès qu'il y a quelque chose de positif qui se passe dans la société, dès qu'il y a un système, par exemple, un service public qui fonctionne, des politiques d'intégration qui font leurs preuves, ils n'ont rien à dire parce que c'est l'inverse de leur projet de société. Et donc, du coup, nous, en revendiquant les choses qui marchent, les victoires qu'on a conquises, eh ben on leur reprend un petit peu le terrain politique et médiatique, puisqu'on sait que eux, ils vont pas s'exprimer sur ce champ-là. Donc il faut absolument, je pense, l'investir. Et puis après, c'est aussi intéressant parce que je trouve que c'est une forme d'absurdité culturelle, en fait, qu'ils aient fait une OPA sur tout ce qui est fun, bon vivant, bien vivre, bien manger, être détente, avoir le monopole de ceux qui savent rigoler, etc. Parce que c'est l'inverse de ce que promeut leur projet de société. C'est vraiment quand on lit, quand on s'attache vraiment aux propositions politiques de ces partis et de cette vision du monde, c'est horrible le monde qu'ils nous promeuvent. C'est vraiment l'apocalypse.
Oui.
Et donc du coup, il y a une grosse, grosse inversion de la réalité. Et nous qui promouvons, quand je dis nous, c'est vraiment les forces progressistes, hein. Si on ne veut pas vivre sur une dictature, on fait partie du même club. Et bien on promeut un système qui bénéficie à tout le monde, en fait, qui est meilleur pour tout le monde et qui est censé rendre la vie moins difficile, moins violente, moins terrifiante. Et donc, c'est complètement étrange qu'on soit perçu comme un camp de personnes chiantes
Qui n'ont pas de
qui
plaisir.
sont, voilà.
Oui, mais c'est
Voilà,
ça.
qui prennent pas de plaisir, qui nous empêchent d'exister, alors qu'au contraire, on cherche, par exemple, sur le sujet de l'écologie, on cherche littéralement à préserver les conditions d'existence communes sur Terre. Et donc qu'on soit perçu comme des empêcheurs d'exister, c'est quand même un énorme non-sens. Donc pour moi, on a tout intérêt à se réapproprier ces émotions et ce vocabulaire et ce discours et ce champ politique, parce qu'en fait, nos émotions sont très politiques. On a bien compris que la colère, c'était très politique, mais la joie, c'est très politique aussi. Et je pense que c'est une bonne stratégie que de leur couper l'herbe sous le pied comme ça.
Eh bien, on va certainement avoir beaucoup de joie à lire La Cité des Dames et j'ai hâte de voir les prochains tomes, évidemment. Merci beaucoup, Blanche Savard, d'avoir été avec nous.
Merci, merci
Merci.
beaucoup.